Chapitre 29. Après 2 heures de marche, le groupe atteignit la sortie du défilé où une petite source donnait naissance au ruisseau. Mais pour s'extraire de la gorge, il fallait gravir une pente assez rude et cette perspective déplut à Callan. Même si cette ascension promettait d'être moins périlleuse que celle d'un des versants, dans le noir elle ne serait pas aisée. Utiliser des torches et des lanternes d'un autre côté aurait permis à d'éventuels poursuivants de les repérer de loin. Au moins la lune éclairait un peu le paysage. En bon militaire, le lieutenant Pfister était pressé de se retrouver dans une position défensive en hauteur. Une chance de piéger les Shuntuk s'il y en avait, un peu comme ils l'avaient été eux-mêmes dans le défilé avant l'intervention de Samantha. Callan doutait sérieusement qu'il y ait des survivants. Mais, ayant remis l'épée de vérité dans le fourreau de Richard, elle n'était plus dans un état d'exaltation martiale, et elle se montra particulièrement réceptive aux conseils de prudence du lieutenant. De plus, elle n'aurait pu jurer que tous les demi-humains étaient morts. L'hypothèse d'une poche n'était pas absurde, et si quelques sorciers noirs avaient survécu, qui pouvait dire de quoi ils étaient capables? Et si sa décision de ne pas gravir la pente provoquait la mort de Zed? Ou de Nietzsche, ou de Richard, ou de n'importe qui en fait, car chaque vie était précieuse. N'était-ce pas le fondement de leur combat? Affirmer que chaque vie était irremplaçable? Aucun de ces soldats ne devait mourir si ça pouvait être évité. L'inquisitrice entendait les voir vivre en paix sans être obligée de faire le travail qu'ils accomplissaient avec tant de talent. Mais il y avait plus motivant encore. L'idée d'être tous réveillés en sursaut sous l'assaut de Shuntuk et de devoir gravir la pente raide avec ses prédateurs aux trousses en entendant claquer leurs mâchoires. Décidément, mieux valait prendre quelques risques dans le noir. Depuis qu'elle ne brandissait plus l'épée, l'épuisement avait rattrapé Callan. Mais il fallait que Zed et Nietzsche soient dans un endroit sûr, afin qu'ils puissent se restaurer et se reposer avant d'essayer de ramener Richard des rives de la mort. Cette considération emporta la décision de Callan. Quand elle l'eut communiqué à Pfister, il envoya des hommes reconnaître le terrain et déterminer la meilleure trajectoire à suivre. Les vêtements de Callan, empoissés de sang, commençaient à sécher, lui donnant l'impression de porter une tenue amidonnée. Combien de demi-humains avait-elle tué? Elle n'aurait su le dire car elle ne gardait en guise de souvenir de cette bataille qu'une série d'images fragmentaires et hystériquement violentes. Ses cheveux aussi étaient poisseux de sang. Par bonheur, elle n'avait pas de miroir pour constater les dégâts, mais au regard que lui jetaient les hommes, elle ne devait pas être très belle à voir. Durant la guerre, certains soldats qu'elle commandait l'avaient surnommée « la reine guerrière ». Consciente que c'était un hommage vibrant, elle avait toujours accepté d'être appelée ainsi, même si pour une mère inquisitrice, ce n'était pas vraiment une promotion. Aux yeux de Callan, les titres comptaient beaucoup plus que pour Richard. Sans doute parce qu'elle était née inquisitrice, l'appellation faisant en quelque sorte partie de sa nature profonde. Cela dit, il n'aurait pas suffi de la dépouiller de son titre pour la priver du pouvoir qu'elle portait en elle. Pour ça, il avait fallu le cri de la pitié silence et le contact intime de la mort. Avant la guerre, les gens l'avaient toujours fui comme la peste à cause de son pouvoir. Ils la craignaient et leur peur l'avait privée des plus simples joies de la vie, comme d'échanger un sourire avec quelqu'un qu'on croise. Elle n'avait pas cherché à s'isoler loin de là, mais les inquisitrices étaient condamnées à la solitude. Parfois, la peur qu'elles inspiraient aux gens les incitait à les haïr. Quoi qu'il en soit, personne ne se comportait normalement avec elle. Même les personnes qui les respectaient s'en méfiaient. En face d'elle, Callan avait toujours vu des visages tendus et inquiets, et quand on lui parlait, c'était toujours d'une voix au moins un peu tremblante, sans parler des mains qui ne pouvaient s'empêcher de trembler aussi. Afin de décontracter ses interlocuteurs, elle avait toujours fait mine de ne pas s'en apercevoir. Qu'aurait-elle pu tenter d'autre? Après tout, les gens étaient libres d'avoir peur si ça leur chantait. Avec le temps, quand il la fréquentait assez longtemps, il se détendait un peu, comprenant qu'une inquisitrice n'était pas susceptible de déchaîner brusquement son pouvoir sur n'importe qui et sans raison. Parfois, ils arrivaient à oublier qu'elle était différente. Enfin, presque. Bien entendu, les inquisitrices avaient aussi des ennemis acharnés à leur perte. Jadis, chacune avait avec elle un sorcier chargé de la protéger. Mais toutes ces femmes étaient mortes depuis des années, comme leur sorcier, et comme Jiller, celui qui veillait sur Callan. Au bout du compte, les ennemis des inquisitrices avaient réussi à les détruire. À une exception près. À présent, Callan était mariée à son sorcier. Et plus important encore, à l'homme qu'elle aimait. En un sens, son titre, d'abord inquisitrice, puis mère inquisitrice, celui-ci lui étant décerné par ses sœurs, était l'armure qu'elle endossait pour combattre au nom de la vérité. Et dans cette acception, elle était bien une reine guerrière, même si elle n'avait rien d'une martiale barbare. Les autres inquisitrices l'avaient choisie pour les conduire au combat, et elle avait rempli sa mission. Née simple inquisitrice, elle était désormais la dernière de toutes et l'ultime mère inquisitrice de l'histoire. Richard était le premier homme qui ne l'avait pas fuie à cause de ce qu'elle était. Bien entendu, à l'époque, il ignorait avoir affaire à la mère inquisitrice. À vrai dire, il ne savait même pas ce qu'était une inquisitrice. Mais en le connaissant mieux, Callan avait découvert une vérité bouleversante. Même s'il avait su, ça ne l'aurait pas empêché de vouloir se rapprocher d'elle. Rien n'aurait pu l'en dissuader. Un être comme on en rencontrait peu. Pour Callan, c'était l'unique homme qui comptait. Pour le reste du monde aussi, il était unique. Mais ce n'était pas du tout pareil. Dès leur rencontre, dans les bois de Heartland, les deux jeunes gens avaient éprouvé l'un pour l'autre une attirance irrésistible. Dans les prophéties, on parlait de Richard comme du caillou dans la mare. Les ondulations provoquées dans l'eau par ce caillou touchaient absolument tout, avec des conséquences inimaginables. Parfois, en songeant à toutes ces interconnexions, Callan se désolait de ne pas pouvoir simplement vivre avec l'homme qu'elle aimait et profiter d'un bonheur simple et banal. Mais Richard avait toujours le poids de son destin à l'esprit, même quand il n'y pensait pas consciemment. Callan le voyait dans ses beaux yeux gris alors qu'il contemplait paisiblement un coucher de soleil. Même lorsqu'il la regardait, elle savait que de complexes calculs cosmiques tourbillonnaient quelque part dans un coin de sa tête. Depuis qu'il était entré dans sa vie, les gens traitaient bien mieux Callan, l'acceptant sincèrement. Désormais, elle avait droit à des sourires et à des salutations courtoises. Surtout quand elle était avec des soldats de la trempe de ceux-là. Ayant combattu avec elle, il savait qui elle était vraiment et ne voyait plus en elle qu'une simple inquisitrice. C'était l'œuvre de Richard. Il avait tout changé. En attendant les éclaireurs, Callan rejoignit quelques hommes près de la source et entreprit de se débarrasser du mieux qu'elle pouvait du sang qui séchait sur ses cheveux et ses vêtements. Les soldats partagèrent avec elle le morceau de savon qu'ils se faisaient passer de main en main. Après la terrible bataille, l'eau fraîche fit du bien aux muscles endoloris de Callan. Étant tout habillée, elle n'eut pas vraiment l'impression de se laver, mais dans la désolation des terres noires, ses ablutions rudimentaires lui parurent un luxe des plus appréciables. Tandis qu'elle passait sous l'eau ses longs cheveux, quelques hommes lui dirent à quel point ils étaient fiers de l'avoir vue couverte de sang de la tête aux pieds. Comme s'il s'était agi d'un manteau royal qu'elle avait amplement mérité de revêtir. Ce qu'ils appréciaient le plus, comprit Callan, c'était de l'avoir vue aussi déterminée qu'eux à massacrer les Shuntuk. Faisant elle-même ce qu'elle leur demandait de faire, elle s'était consacrée à cette tâche avec le même engagement qu'eux. Manteau royal ou pas, et même si elle était honorée, Callan entendait se rendre présentable. Dès que Richard serait réveillé, elle comptait l'embrasser. Et elle devrait être à son avantage pour célébrer le retour de son bien-aimé dans le monde des vivants.